Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à vous qui êtes à la maison. Sans transition, je vous propose de visionner la vidéo suivante. Si ça marche. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissaient déjà cette vidéo. Cette vidéo humoristique illustre une vérité sérieuse pour nous cet après-midi. Sans Jésus, aucun d'entre nous ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et cet après-midi, nous terminons notre série de prédications sur qui est Jésus. Chaque semaine, je vous ai montré cette image comme une illustration que c'est progressivement que nous apprenons à connaître Jésus. Bien sûr, cette image n'est pas le véritable portrait de Jésus, mais elle a comme particularité, alors c'est peut-être tout petit pour vous, mais elle a comme particularité de qu'il y ait une pièce manquante, comme pour nous indiquer qu'on ne finit jamais de connaître Jésus. Qui est donc Jésus ? Matthieu, Marc et Luc, les auteurs des évangiles, nous ont livré leur réponse, que je récapitule dans ce tableau. Nous avons vu d'abord avec Matthieu que Jésus est le Messie promis et choisi par Dieu. En grec, le Christ. Voilà ce que signifie Christ, le Messie. Chez Marc, nous avons vu que Jésus est le Messie, le roi serviteur venu pour donner sa vie. Et puis avec Luc, la semaine dernière, nous avons vu que Jésus est celui qui pardonne les péchés. Or, seul Dieu le fait. Seul Dieu pardonne les péchés. Donc ça nous dit quelque chose sur l'identité de Jésus. Nous avons vu aussi que ces trois évangiles synoptiques présentent de fortes ressemblances entre eux. Mais le quatrième évangile, celui de Jean, se distingue assez fortement des trois autres. En fait, Jean suit un projet différent des trois autres, que j'aimerais juste vous résumer là. Ce projet, il le mentionne à la fin de l'évangile, en disant que son récit, ce qu'il raconte de la vie de Jésus, a pour but de conduire ses lecteurs, qui étaient sans doute des juifs, de conduire ses lecteurs à la foi en Jésus. Et Jean ne passe pas par quatre chemins, il affirme tout au long de son évangile que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une affirmation forte que l'on trouve chez l'évangile de Jean. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu le Fils. Et notre texte ne fait pas exception. Jésus affirme sans ambiguïté que lui et Dieu le Père ne font qu'un. Et ce fameux soir, la veille de sa mort, Jésus prend le repas de la Pâque. Il prend ce repas avec ses disciples et troublé par ce qui l'attend, à savoir sa mort, Jésus leur annonce que l'un d'entre eux va le trahir, qu'il va lui-même bientôt partir et que Pierre le reniera trois fois. Alors autant vous dire que d'une ambiance de fête, nous sommes passés à une ambiance bien lourde. Et les disciples sont alors perplexes, tristes, troublés à leur tour. Mais comme nous l'avons lu, Jésus cherche ici à rassurer ses disciples juste avant son départ. Et nous sommes dans ce que certains ont appelé son discours d'adieu, un adieu avant le sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est dans ce discours que Jean est le seul à rapporter, c'est dans ce discours que nous trouvons cette déclaration à propos de l'identité de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et dans les 14 versets que nous avons lus, Jésus parle 11 fois de son Père qui est dans les cieux. C'est plutôt pas mal. Pour 14 versets, il parle de son Père 11 fois. Et si le chemin est une image, il est clair que ce chemin mène quelque part, ou plutôt mène vers quelqu'un, vers Dieu le Père. Et à plusieurs reprises, Jésus appelle ses disciples à croire en lui. Alors, cet après-midi, entendons encore son appel. Croyons en Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Croyons en Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Croyons en Jésus, il est, je dirais, indispensable. Indispensable d'abord pour nous conduire dans la maison du Père, c'est ce que nous voyons dans notre texte. Indispensable pour notre relation avec le Père. Et enfin, indispensable pour que notre vie soit à la gloire du Père. Donc, il y a toujours ce lien avec le Père. Il y a toujours ce lien avec le fait que Jésus est indispensable. Et j'aimerais voir avec vous d'abord le fait que Jésus est indispensable pour nous conduire dans la maison du Père. Après tout ce que Jésus leur a dit concernant la trahison, concernant son départ, les disciples pensent à l'avenir et cet avenir leur paraît bien sombre. Jésus va partir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eux qui ont tout quitté pour le suivre, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ont marché 3 ans avec lui et là, Jésus leur annonce qu'il part. Jésus sait très bien à ce moment-là que c'est quelque chose de difficile pour eux. C'est pourquoi il leur dit au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Quel est le remède au trouble, à l'inquiétude par rapport à l'avenir? Le remède, c'est la foi, une confiance solide en celui qui les aime. Jésus fait appel à la foi de ses disciples, une foi qu'ils sont censés avoir en Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Israël. Et Jésus ajoute d'avoir foi en lui. Il se place ici sur le même plan que Dieu. Autrement dit, avoir foi en Jésus, c'est avoir foi en Dieu. Et Jésus enseigne à ses disciples à avoir confiance en lui, particulièrement dans ce moment difficile. Mais il ne s'arrête pas là. Il nourrit leur espérance. Et dans les versets suivants, il leur explique pourquoi ils ont des raisons d'avoir confiance en lui et pourquoi son départ sera profitable pour eux. Nous lisons au verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Si les disciples avaient pris un peu de recul, ils auraient été saisis par ces paroles si réconfortantes et pleines d'espérance. Jésus est en train de dire qu'il y a de la place dans la maison de son Père, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. De la place pour chacun d'entre eux. Non seulement il y a de la place, mais Jésus va revenir et les prendre avec lui, afin qu'ils soient pour toujours dans la présence de leur maître. Il n'y a pas d'avenir plus réjouissant que celui-là. Et tout nous montre dans ces versets que Jésus est l'intermédiaire entre le Père et nous. Notez que c'est Jésus qui va faire tout cela. Je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus s'occupe de tout. Il est indispensable pour nous conduire dans la maison du Père. Et de la place, il y en a. Cette déclaration de Jésus nourrit leur espérance, mais nourrit aussi notre espérance. En effet, Jésus a préparé une place pour toutes les personnes qui ont placé leur foi en lui. Pour tous ses disciples. Une place pour celles et ceux qui ont reconnu, qui ont admis qu'ils ne pouvaient se sauver par eux-mêmes. Une place pour celles et ceux qui comptent uniquement sur l'efficacité de l'œuvre de Jésus, sa mort à la croix et sa résurrection. Et en fait, c'est ainsi que Jésus a préparé une place, en passant par la mort et la résurrection, en mourant à la place de pécheurs comme nous, et en nous réconciliant avec le Père. Voilà comment Jésus prépare une place. Autrement, comment le Père pourrait accueillir des pécheurs dans sa maison? Si vous êtes un disciple de Jésus, vous êtes concerné par cette promesse. Il y a de la place pour vous dans la maison du Père. Et à l'inquiétude d'un avenir qui est totalement incertain, Jésus répond par un avenir certain. Remarquez de quelle manière Jésus insiste sur le fait que la chose est certaine. Il dit au verset 2, « Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. » Mais comme toujours, la parole de Jésus est certaine. Elle est digne de foi, digne qu'on lui fasse confiance. Et quand l'apôtre Paul parle de la vie éternelle, il écrit à Tite, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Imaginez, durant 5 secondes, le lieu où vous souhaitez le plus aller. Une destination de rêve. Alors peut-être qu'en ce moment, il n'est pas très prudent de voyager au loin, mais imaginez votre destination de rêve. Peut-être une île paradisiaque, comme on dit. Eh bien, votre destination de rêve n'est rien comparé au royaume qui nous attend. Jésus veut que ses disciples soient là où il est, dans la maison de son Père. Jésus tient à ce que nous soyons avec lui là où il est. C'est tellement meilleur que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde. Et je n'ai pas encore été là-bas, mais si c'est Jésus qui nous a préparé une place, je suis certain que c'est bien supérieur à tous les places to be, à tous les endroits où il faut être sur cette terre. Si c'est Jésus qui a préparé une place, alors je suis certain que c'est supérieur à tout ce que je peux connaître sur cette terre. Il est vrai que nous ne vivons pas dans le même contexte que les disciples. Nous ne ressentons pas le même trouble qu'ils ont pu ressentir. Mais peut-être qu'en ce moment, quelque chose vous préoccupe. Vous êtes inquiet, vous pensez à plusieurs choses en même temps. au point que vous n'arrivez même pas à vous concentrer sur ce que vous faites. Et il nous arrive d'avoir toutes sortes de préoccupations, que ce soit concernant les finances, peut-être des soucis dans la famille, ou bien des soucis qui sont liés au travail. Parfois, c'est notre état de santé qui nous préoccupe, ou encore celui de nos proches. Et de manière générale, c'est la situation actuelle, où la crise sanitaire n'est pas terminée. Et on pourrait multiplier les sujets de préoccupation. Jésus nous appelle cet après-midi à tourner notre regard vers lui, une fois de plus, et à contempler notre avenir certain. Dans le trouble de cette vie terrestre, il existe une perspective qui nous donne de l'espérance. Et Jésus est celui qui nous conduira dans la maison de son Père. Et si Jésus est capable de nous assurer un tel avenir dans l'au-delà, à combien plus forte raison peut-il assurer notre avenir dans cette vie présente? Entre ses mains, je m'abandonne, car je sais que mon avenir est assuré. Telle est notre espérance, mes amis. Jésus a fait ce qui est nécessaire pour que notre entrée dans la maison du Père soit possible. Il est indispensable. Et il l'est également pour notre relation avec le Père. Au verset 4, Jésus affirme que ses disciples connaissent le chemin qui mène au royaume de Dieu. Et dans la foulée, Thomas, l'un des disciples, répond au nom de tous qu'il ignore quel est ce chemin. Il dit ne pas connaître le chemin, mais pourtant le chemin est bien devant lui. C'est Jésus. Et à la question de Thomas, Jésus offre une merveilleuse réponse. Thomas, tu cherches le chemin? Mais le chemin, c'est moi. Relisons encore le verset 6. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et vous voyez que dans ce verset, l'insistance est sur l'image du chemin, le chemin par lequel il faut passer. Et parmi toutes les routes que nous pouvons avoir dans ce monde, une seule nous conduit à la bonne destination. Une seule nous conduit au véritable Dieu. Jésus est le bon chemin, parce qu'il est aussi la vérité et la vie. Jésus est la vie parce qu'il révèle parfaitement Dieu. Et jamais l'expression « tel père, tel fils » n'a été aussi vraie. Si nous cherchons le vrai Dieu, Jésus est le vrai Dieu. C'est par lui que Dieu a décidé de se révéler. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux l'écrit avec grande clarté. Nous lisons dans le chapitre 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Jésus est le porte-parole ultime de Dieu. Est-ce que tu le crois? Jésus affirme qu'il est la vie. Et dans le même évangile, nous lisons au chapitre 5, « En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jésus est la vie, il est la source même de la vie. C'est avec lui qu'une vie nouvelle est possible. Et Jésus a donné volontairement sa propre vie. Le châtiment de nos fautes, de nos péchés est tombé sur lui, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous ayons une place dans la maison du Père. Et si Jésus est la vie, il est vital pour nous que nous le connaissions. Est-ce que tu le connais? Il n'y a aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le chemin, le seul. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Et cela sous-entend que tous les autres chemins, tous sans exception, mènent au mensonge et à la mort, le contraire de la vérité et de la vie. Tous les autres chemins mènent au mensonge et à la mort. Tous les autres chemins nous éloignent de Dieu au lieu de nous en rapprocher. Aujourd'hui, nous entendons parfois le discours que toutes les religions se valent. Dieu n'a pas choisi plusieurs chemins pour le rejoindre. Seulement un seul. Veux-tu emprunter ce chemin? Il n'y a qu'un seul chemin. Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Le verbe connaître est repris 4 fois dans ces versets. C'est dire combien Jésus insiste dessus. Et quand Jésus dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père », nous voyons bien qu'il ne parlait pas d'une connaissance intellectuelle. Et Jésus interpelle Philippe sur le fait qu'après ces 3 années, il n'a toujours pas remarqué que Jésus est l'image parfaite de son Père. Et quand Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », Jésus ne dit pas qu'il est le Père, mais qu'il ne fait qu'un avec le Père, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je l'admets, c'est difficile à concevoir. Mais notre seule option est d'accepter ce que la parole de Dieu nous révèle. Notre Dieu est trinitaire, un seul Dieu et 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela dépasse notre entendement, mais c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Donc Jésus n'est pas le Père, mais il ne fait qu'un avec le Père. Nous lisons que Philippe, pas moi, l'un des disciples, demande « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Autrement dit, si nous voyons Dieu, nous n'avons pas besoin de demander autre chose, parce que c'est une demande qui est au-dessus de tout. Si nous voyons Dieu, cela nous suffit. Et Jésus répond à Philippe que lui, Jésus, est suffisant. Philippe demande, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus est en train de lui dire, mais moi, je suffis. Je suis suffisant pour répondre à ta demande. Jésus révèle le Père. Et c'est maintenant qu'il faut s'accrocher un peu pour comprendre le langage de Jésus. Au verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En lisant ces mots, nous entrons dans l'intimité de la relation entre le Père et le Fils. Et cela nous dépasse comme cela devait dépasser les disciples à l'époque. Mais c'est une affirmation, Jésus est le Fils éternel de Dieu. Il est Dieu depuis toujours et bien avant de venir sur terre. Et je vous renvoie à ce que Jean écrit au début de son évangile. Nous lisons au chapitre 1. Je lirai juste quelques extraits. Verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Un peu plus loin, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et puis le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous comprenez alors pourquoi Jésus est le chemin parfait pour nous conduire à Dieu le Père. En réalité, Jésus révèle comme ailleurs qu'il ne fait qu'un avec le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et cette unité qui est si forte, elle est si forte que Jésus peut dire qu'il ne fait pas autre chose que ce que fait le Père, que ses œuvres sont les œuvres du Père. Et j'aimerais encore citer à cet égard un verset dans le chapitre 5. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Encore une fois, nous pourrons avoir du mal à concevoir comment Jésus peut être Dieu et en même temps tellement distinct du Père. Le Père et le Fils agissent en pleine harmonie. Et même si nous n'avons pas vu de nos propres yeux ces œuvres qui sont mentionnées dans notre passage, l'évangile de Jean nous rapporte ces œuvres, nous dit quels sont ces signes, nous dit quels sont ces miracles, tels que l'eau changée en vin, tels que la multiplication des pains, tels que la résurrection de Lazare. Nous avons ces œuvres dans les Écritures. Et l'invitation de Jésus à ses disciples est de croire. Croire en ce que Jésus vient de dire. Reconnaître qui il est. Qui est Jésus ? Il est Dieu le Fils. Et si nous ne croyons pas cela, nous ne pouvons pas être en relation avec Dieu. C'est impossible. Nous sommes alors en train de rejeter la révélation que Dieu fait de lui-même. Dieu se présente à nous en la personne de Jésus et nous oserions le rejeter et prétendre que Jésus ment. Chercher Dieu en mettant de côté Jésus est une entreprise vouée à l'échec. Dieu n'est accessible que par Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois ? Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu. Parfois nous demandons, comment va ta relation avec Dieu ? Nous devrions ajouter, quelle est la place de Jésus dans ta vie ? Est-il toujours ce médiateur indispensable ? Est-il le chemin que tu empruntes pour venir au Père ? Pour le dire encore autrement, pour être sûr que notre relation avec Dieu est authentique, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Jésus nous demande de croire en lui parce qu'il est celui qui nous conduit à la maison du Père. C'est ce que nous avons vu premièrement. Et il nous demande aussi de croire en lui parce qu'il est l'unique accès au Père, à la connaissance de Dieu, à la relation avec Dieu. Et justement, qu'arrive-t-il à celles et ceux qui croient en lui ? Eh bien là aussi, Jésus est indispensable. Indispensable pour que notre vie soit à la gloire du Père. Lisons le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Jésus vient de parler des œuvres qu'il a accompli, en parfaite unité, en parfaite harmonie avec le Père. Des œuvres qui révèlent qui il est vraiment. Mais en croyant en Jésus, en étant son disciple, nous avons aussi cette certitude de pouvoir accomplir les mêmes œuvres. De continuer en fait sa mission. De vivre en réalisant le plan de Dieu. Jésus a appelé ses disciples à le suivre. Et il les appelle à continuer ce qu'il a lui-même commencé sur terre. À continuer à parler du royaume de Dieu, à le faire connaître dans le monde, et tout cela jusqu'à aujourd'hui. Depuis que le monde existe, Dieu n'a cessé d'appeler l'humanité à lui, en envoyant des prophètes, en envoyant des prêtres, en envoyant des rois. Mais à cause du péché, beaucoup ont rejeté cet appel. Et puis un jour, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour appeler l'humanité à lui. Et aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui racontent cette histoire. Dieu nous envoie pour appeler l'humanité à lui. Jésus annonce que ses disciples feront même de plus grandes œuvres. En quoi ces œuvres seront plus grandes ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus extraordinaire que ce que Jésus a accompli ? Mais soyons attentifs à ce que dit ce verset. Pourquoi feront-ils de plus grandes œuvres ? Verset 12, « parce que je vais vers mon Père. Dès l'instant où Jésus accomplira ce pourquoi il est venu, c'est-à-dire mourir pour nos péchés, ressusciter et puis retourner au ciel auprès de son Père, Jésus ouvre une nouvelle page de l'histoire. Et il fait encore une chose que nous avons vue le jour de la Pentecôte, il envoie son Esprit Saint. Et d'ailleurs, dans notre passage, tout de suite après, il en parle. Il envoie son Esprit Saint pour équiper ses disciples afin qu'ils poursuivent la mission. Et c'est ce que nous étudions en ce moment aussi dans les groupes de maison, à travers le livre des Actes. Et dans un sens, les apôtres vont accomplir des œuvres qui sont plus grandes, en apportant le message de Jésus au-delà des frontières du pays d'Israël. Donc dans un certain sens, oui, ils font des choses plus grandes. Mais ce verset peut aussi vouloir dire que les œuvres des disciples seront plus grandes, non pas dans un sens spectaculaire, mais dans le sens où la clarté à propos de Jésus sera plus grande. Comme nous le voyons ici, tant que Jésus n'a pas donné sa vie, les choses ne sont pas aussi claires pour les disciples. Mais après sa résurrection, tout prend sens. Les disciples comprennent enfin pourquoi Jésus est venu sur terre. Et la bonne nouvelle à annoncer devient plus claire à propos de la mort et de la résurrection de Jésus. Et je m'appuie notamment sur le commentaire de Donald Carson qui dit que la grandeur des œuvres qui sont mentionnées ici est déterminée par leur place dans l'histoire du salut. La grandeur des œuvres est déterminée par leur place dans l'histoire du salut. Avant la croix, il y avait des œuvres déjà extraordinaires. Mais après la croix et après la résurrection, ces œuvres sont encore plus grandes parce qu'elles nous montrent toute la gloire de Jésus. Le message prend tout son sens et notre vie actuelle, notre témoignage pointe vers ce message. C'est par l'œuvre de Jésus que nous sommes sauvés. Et en cela, les œuvres sont plus grandes. Puis j'aimerais terminer avec les versets 13 et 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà une promesse extraordinaire, mais à bien saisir dans son contexte. Nous avons vu que c'est dans le contexte des œuvres que Dieu nous demande de réaliser. Pour accomplir les œuvres de Jésus, nous sommes appelés à prier, à demander. Et c'est de cette manière-là que Jésus accomplira ses œuvres. Il dit « Je le ferai » en réponse à nos prières. C'est ainsi que le Père sera glorifié. C'est ainsi que le Fils sera glorifié. Et je trouve que lorsqu'on comprend les choses de cette manière-là, cela réforme, cela change notre manière de prier. Évidemment, nous prions pour nos besoins. Mais nous ne prions pas pour notre gloire. Et la vocation des chrétiens est de faire les œuvres que Jésus a faites. Tout ce qui est en lien avec l'Évangile. Dans quelle mesure mes prières révèlent-elles que je me préoccupe de la gloire de Dieu, de la gloire du Père? Si je demande un nouveau travail, si je cherche un appartement, ou si je prie pour trouver un conjoint, en quoi est-ce que cela rend gloire à Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour cela, mais posons-nous la question, en quoi est-ce que cela rend gloire à Dieu? Si je prie pour mes prochaines vacances, en quoi est-ce que cela rend gloire à Dieu? Jésus promet, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Nous ne pouvons pas demander tout et n'importe quoi au nom de Jésus. Est-ce que notre vie s'inscrit dans les grands plans de Dieu? Mes amis, dans toutes nos demandes, recherchons ce qui glorifie Dieu. Dans toutes nos demandes, recherchons ce qui fera avancer son royaume. Dans toutes nos demandes, recherchons ce qui contribuera à ce que sa parole atteigne plus de personnes, à ce que le nom de Jésus soit connu en tout lieu. Parce que nous l'avons vu, Sans Jésus, personne ne peut venir au Père ni entrer dans sa maison. Et si nous voulons vivre une vie à la gloire de Dieu, cela passe par Jésus. Jésus est indispensable. La prière est faite au nom de Jésus. Et ce n'est pas une formule magique quand on dit cela. Jésus nous enseigne à prier en son nom comme si nous venions à Dieu de sa part. Alors soyons conscients que prier au nom de Jésus signifie que ce que nous demanderons ne déshonore pas son nom. Nous prions au nom de Jésus, selon sa volonté, en accord avec ses plans. Et Jésus ne réalisera pas quelque chose qui ne glorifie pas le Père. Il le dit ici. Est-ce que vous connaissez cet homme qui va s'afficher? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Georges Werber est missionnaire et fondateur d'Opération Mobilisation, un organisme qui a été créé en 1961 pour mobiliser les chrétiens, notamment les jeunes, afin d'annoncer l'évangile dans le monde. Et la conviction qui a animé Georges, je vais l'appeler par son prénom, qui a animé Georges toutes ces années, est que chacun devrait avoir la possibilité d'entendre l'évangile au moins une fois dans sa vie. Mais en fait, c'est pas par rapport à lui que j'aimerais attirer notre attention. Mais plutôt, attirer notre attention sur celle qui a prié pour lui. J'ai eu l'occasion de rencontrer Georges Werber et il raconte l'histoire de cette femme qui s'appelait Dorothy Clapp. Déjà en 1940, elle priait pour les étudiants de sa ville aux États-Unis. Elle demandait à Dieu de sauver ses étudiants et de les envoyer en mission. Ça, c'était en 1940. Et puis, en 1953, le fils de Dorothy Clapp a donné un évangile. D'ailleurs, c'était l'évangile de Jean. Il a donné un évangile à Georges, qui avait alors 14 ans. Et 2 ans plus tard, lors d'une campagne d'évangélisation de Billy Graham, Georges se convertit. Et cette femme, Madame Clapp, a alors prié que Georges devienne missionnaire. Et sa prière a été exaucée. Jésus a dit « Je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Jésus est indispensable pour que notre vie soit la gloire du Père. Et cela commence par la prière. Comme nous l'avons vu dans la vidéo du début, comme nous l'avons lu dans le texte d'aujourd'hui, Jésus est indispensable. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Sans lui, nous ne pouvons pas entrer dans la maison du Père. Jésus a préparé une place pour celles et ceux qui croient en lui. Sans lui, nous n'avons pas de véritable relation avec Dieu. C'est une illusion. Jésus est le seul chemin qui relie les hommes au Père. Et sans lui, notre vie ne sera pas à la gloire du Père. Et Jésus nous appelle cet après-midi à accomplir ses œuvres et à prier, à demander en son nom. Et il répondra pour que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Sans Jésus, nous pouvons être certains de nous tromper de chemin, d'être dans le mensonge et de suivre une route qui nous conduit à la mort. Mais avec Jésus, nous sommes certains que nous serons sur le bon chemin. Crois-tu cela? Veux-tu passer l'éternité avec lui? Un jour, tous les êtres humains passeront en jugement. Et vous savez qui sera le juge? Jésus, Jésus lui-même. Les uns seront condamnés et les autres seront sauvés. Et ceux qui seront sauvés ne le seront pas parce qu'ils auront mené une meilleure vie que les autres, mais parce qu'ils auront emprunté le bon chemin, parce qu'ils auront placé leur confiance en Jésus et en Jésus seul. Amen. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole qui est la vérité. Et nous ne pouvons pas nous lasser d'entendre cette vérité qui est si bienfaisante pour qui veut l'entendre. Merci notre Père parce que tu as envoyé ton Fils pour te révéler à nous. Et nous croyons dans cette Église, et comme dans tant d'autres Églises, nous croyons que tu es le véritable Dieu et que Jésus est le seul chemin. Et que c'est par lui qu'il faut passer pour pouvoir être en relation avec toi. Et d'ailleurs, je ne peux pas faire cette prière si je ne le fais pas au nom de Jésus, si je ne passe pas par Jésus, si je ne place pas ma confiance en lui. Mais merci de recevoir notre prière, parce que oui, nous croyons en ton Fils. Nous croyons que c'est lui que tu as choisi pour te révéler à nous. Et tu nous appelles aussi à accomplir tes œuvres, à poursuivre la mission. Tu nous appelles à prier au nom de Jésus. Et nous avons cette assurance qu'il le fera, qu'il exaucera notre prière pour que ta gloire se révèle. Et nous ne voulons pas vivre autrement que pour ta gloire. Merci encore pour ta grâce à notre égard. Merci, comme nous l'avons chanté, pour ton amour tellement grand. Et merci parce que nous avons cette assurance, en même temps que cette espérance, que nous serons un jour dans ta maison, aux côtés de celui qui nous aura conduits jusqu'à toi. Béni sois-tu, dès maintenant et pour l'éternité. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.